21h43 sur les ondes du 93.9, mieux retard que jamais. Tout de suite, on retrouve Thierry Margot avec un invité de marque. Aujourd'hui, c'est Dimonet, c'est dans Vagabondage et c'est en direct sur les ondes du 93.9.
Vagabondage. Une émission proposée par Thierry Margot avec Bruno Bertrand à la technique, accompagné de Karine et avec Cédric dans le studio. Balade intemporelle à la rencontre des gens, des choses, des musiques et des mots. Montpellier est un bien beau chaudron créatif dont on sort une multitude de scènes, de pièces, de spectacles et d'artistes et autant de parcours dont il serait fastidieux de suivre chaque trace. Mais il en est toujours quelques-uns dont la singularité artistique, la créativité musicale, l'écriture nous entraînent un peu malgré nous dans un univers où les vibrations, les histoires, les rêveries vous collent au firmament d'un plaisir. Un plaisir certes indéfinissable, mais bien réel. Alors ces parcours... Là, au moins, rien que pour les délectations du voyage, de près ou de loin, vous ne les lâchez pas. Et quand en plus l'impression artistique se mêle lors de brèves rencontres une forme de sympathie naturelle, forcément, il n'est pas possible de passer à côté d'une balade vagabonde. Ça a déjà été le cas pour Laurent Montagne, et c'est aussi ce qui explique la présence aujourd'hui de Dimonet. Et j'ai même envie de rajouter « Ah, enfin nous y voilà !» Mais comme d'hab, juste avant de retrouver notre invité, voici une nouveauté neuve et récente, extraite du dernier album de Bastien Lallemand.
Avez-vous pensé au poison pour se débarrasser de ce garçon, pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con? Avez-vous donc quelques notions de chimie, là est la question. Car pour une bonne potion, faudrait connaître les proportions. N'est pas empoisonneuse qui veut, non. Préparerait à 11h pour lui un bon bouillon d'11h qu'il enverra brouter les fleurs par la racine pour son malheur, pour ne pas éveiller de soupçons. Choisissez bien votre poison. Les baies de ce simple buisson font merveille en extrême onction. N'est pas empoisonneuse qui veut. Ce sera insinué. Trois gouttes suffisent dans son thé pour l'envoyer en jet privé. Et vous serez enfin heureuse. serai enfin heureuse. Quand la police viendra fouiner, prenez soin de dissimuler. Passion et pleurer, l'empoisonneuse est pardonnée, l'empoisonneuse est pardonnée, l'empoisonneuse est pardonnée.
Voilà. Comme je disais, enfin nous y voilà.
Eh ben, écoute, comme
c'est, tu dis, c'est pas la première fois que tu viens sur Divergence, hein, mais il y a une émission quand même qui était faite pour toi ici depuis longtemps et on n'avait pas encore eu l'occasion de se donner ce rendez-vous.
Ben, c'est très gentil ce que tu dis, mais c'est un peu l'errance et le vagabondage
qu'il faut tout à fait.
Avoir des rendez-vous sur des cairns, un cairn comme les Divergences, en tout cas pour nous tous ici.
C'est vrai que toi, tu fais partie de ces gens à Montpellier, de ces artistes qui soutiennent Divergences aussi, dans les moments aussi difficiles, mais qui viennent.
Ouais, c'est du compagnonnage, hein, plus voilà, que. Bien sûr. Je viens même pas là dans l'idée de soutenir. Oui, c'est vraiment un accompagnement assez beaucoup. C'est cette radio et notre quotidien, on va dire, les gens qui la font. C'est nous comme vous, comme sans avoir un discours baba, quoi. C'est véritablement le tissu des ondes ancestrales maintenant, ici, puis avec un ton libre et puis la belle idée de la radio, quoi.
Ouais, avec Jean-François, hein, que tu connais bien.
Jean-François, oui, oui.
Le précurseur de celle-là. Mais
même Jean-Laguioni, même Claude Frigara.
Claude qui est toujours là, pas loin.
Voilà,
c'est sur la radio voisine.
Dans le Clapas.
Exactement, ouais. Alors donc, je disais, on parle de toi, quand on lit un petit peu, on va te chercher un petit peu des articles sur toi, on dit, ah, le démon catalan, mais ça vient d'où ça?
Ça, c'est le nom déjà, tu sais, j'ai un peu Perpignan qui est là comme une antenne, cette catalanité perdue, tu vois, cette idée... la famille, je suis d'origine catalane. Alors
Mais je disais que tu étais quand même né à Montpellier, quoi.
Je ne suis pas né à Montpellier, non, je suis né à Savigny-sur-Orge. C'est où sucre d'orge ou crème catalane, en fait.
Oh, oui, d'accord.
Non, mais attends, je vais vite rectifier. C'est le fait d'être fonctionnaire fait. Il y a des moments où on est muté, et papa a été muté. Hein, donc,
c'est pas.
On n'est pas parisien.
Donc, t'es pas né. T'es pas
non,
né
non, surtout après le match qui reste Montpellier-Paris. non, je suis vraiment.
En tout cas, t'es pas supporter du PSG.
Non. Non. On va pas non plus exagérer là-dessus. Il y a tellement de radicalité.
En tout cas, aujourd'hui, tu es bien implanté dans le paysage, en tout cas montpelliérain, de l'Hérault et particulier montpelliérain. Parce que c'est vrai qu'un petit peu partout, dès que quelqu'un connaît ton nom, t'es repéré comme un musicien montpelliérain.
Écoute, c'est l'idée d'être un enfant du pays. Voilà. J'ai même encore du mal à dire que je suis montpelliérain, mais j'y suis depuis 1974. Je voyais Habib, qui était juste avant nous, qui habitait Phobos, quand moi j'habitais la Tour d'Assas. On est arrivé en 1974 au 9e étage de la Tour d'Assas. Donc évidemment que je suis montpelliérain. Ouais. Fondamentalement, je me rêve... avoir des racines ailleurs, mais toujours l'idée, pour revenir à ton titre d'émission,
t'as grandi là, en tout cas.
Voilà, on se sent toujours d'un endroit qui nous échappe aussi. Ouais, c'est un peu ça l'idée de coller. Mais j'ai grandi ici, je suis arrivé, j'avais 8 ans. Tu vois,
ouais, donc je te parlerai pas non plus de 57, où tu n'étais pas encore là.
Non, 57, non. Non,
c'est simplement le lien qui fait que tu es là, puisque c'est moi qui étais là en 57.
Attends, 10 ans d'écart. Toi, tu es arrivé à Montpellier.
Non, je suis arrivé à Montpellier en 85 étoiles. Je me sens déjà un peu montpelliérain. Alors, toi, c'est pour
tu te sens
que toi,
un peu montpelliérain.
Même beaucoup, même.
D'accord.
Aujourd'hui, il faut m'opérer de l'accent, mais c'est tout.
Ils ont fait des progrès.
Ils ont fait des progrès de ce côté-là.
Ouais.
Donc, alors, tu me disais, tu me le disais pas, tu le dis, c'est une citation, faire des chansons est une vaccination permanente, pur accident répété au format idéal pour me perdre ou m'équilibrer en 3 minutes 30. Et j'ai trouvé ça super parce que je me suis dit, c'est exactement ça aussi, quand d'autres, en tout cas quand moi j'écoute tes albums, quoi. C'est extraordinaire.
Oui, c'est les petites cartouches qu'on se fait de ces robes anti-venin. Comme si la fille était venimeuse. Et puis, avec bonheur aussi. Ça peut être des opiacés, tout ça. Mais,
bien sûr.
J'aime bien l'idée de mettre...
C'est ce que je disais un petit peu dans l'introduction. C'est, en t'écoutant, on ressent cette espèce de limite entre la frontière de l'histoire vécue, une rencontre, une discussion, quelques discussions qui peuvent se faire entre des personnages et puis une sorte de rêverie qui vient notamment par la musique que tu amènes, qui crée une atmosphère, un espace et qui t'est très identifié, quoi. C'est qui t'identifie depuis quasiment le début, hein. On retrouve constamment cette envie de mener jusqu'au rivage de la rêverie, même une histoire qui des fois, comme tu le dis, opiacée, des fois...
C'est alambiqué, c'est... j'essaye d'avoir un fil, même s'il est très personnel, en tout cas si ça arrive à être diffusé, c'est se faire du compagnonnage dans le compliqué. C'est un vrai défi super agréable, tant que c'est mené à terme. Après, moi, j'ai pas le... le regard, je me l'empêche aussi pour avoir...
Tu
vois, l'idée de la frontière de rêverie, il faut qu'elle me le... Moi, je sois dans ce coton-là pour aussi continuer à avancer dans ce coton-là. Je trouve ce défi nébuleux est intéressant.
Ouais, plus c'est l'inconscient, donc on est dans une sorte de... Il y a quelque chose d'infini. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une chanson...
D'infini, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors... Il y a Cédric qui est avec moi aujourd'hui, il y a Karine qui nous fait la technique avec Bruno. Et alors, ils ont la particularité de t'avoir vu au théâtre Jean-Vert. On n'a pas eu le temps d'en discuter, hein, juste...
Non, parce qu'on ne s'est pas vu depuis.
On n'a pas eu l'occasion de se voir depuis. Alors, et moi, bien sûr, c'est le concert de ma vie que je ratais, quoi, parce que j'étais pas là. Non, je t'ai déjà vu dans d'autres concerts, moi je sais ce que tu vaux. Et je leur disais, faut absolument y aller parce que... Vous allez voir, quoi.
Très gentil.
Et puis, on aura l'occasion de se revoir en concert. Mais alors là, ils ont été au concert. Et la seule chose qu'ils m'ont dit depuis qu'on s'est vu, c'est alors là, maintenant, il y avait Laurent Montagne, et maintenant, il y a Dimonet, quoi. Parce qu'ils avaient eu l'occasion de.
Si ça s'accumule, c'est bien.
Ça s'accumule, voilà.
Mais oui, parce qu'on s'est enchaîné. C'était mercredi soir, Gérard Philippe, on est allé voir Laurent.
Laurent, ouais.
Et le lendemain, on était à Jean Villard.
D'accord. Bon, c'est.
Et Laurent l'avait déjà reçu ici.
Grosse semaine.
Grosse semaine locale.
Et alors, ce concert, quelques impressions comme ça de... Parce que c'était une découverte pour toi.
Une découverte sur scène.
Sur scène, bien sûr.
Vous connaissez le dernier album notamment. Une découverte sur scène. Une claque. Oh. Voilà. En tout cas, c'est un rendez-vous que j'avais pris depuis plusieurs mois parce que quand j'avais découvert la programmation de Jean Villard. C'était une soirée inratable, hein. Il fallait vraiment pour moi que je sois là. Et vraiment, au-delà d'un simple concert, j'ai vraiment pris une claque, belle claque. Hein.
C'est très gentil, ça me gêne un peu d'entendre ça dans les yeux.
Vraiment, vraiment. Et j'étais pas seul, on était quelques-uns. Et vraiment, on a été tous coachés de manière très différente parce que chacun vit la musique, ce qu'il voit de manière différente. Alors, j'étais à côté d'un ami qui est fan et qui, lui, était vraiment était survolté. Et moi, qui voyais, qui entendais la même chose, j'étais aussi... J'ai aussi pris une claque, mais de manière très différente. Moi, j'étais plutôt enfoncé dans mon siège.
C'est l'avantage de ce salle, c'est qu'il y en a des fauteuils aussi.
Voilà. D'ailleurs, en plus ce que moi, je regrette de ne pas t'avoir vu dans cet endroit-là en particulier, c'est parce que j'adore le son, j'adore les conditions de cette salle. Et le son, peut-être c'est la meilleure salle pour le son à Montpellier. C'est vraiment... Bon, le Victoire a fait d'énormes progrès hein, depuis que ça a été refait. Donc
c'est une salle chanson,
Théâtre Jean Villard. C'est une salle chanson, voilà, tout à fait.
C'est difficile pour... vu que nous, on a une proposition qui est assez rock, quand même, par moment. Il y a vraiment un rapport différent à trouver dans cette salle par rapport à une salle de concert.
Mais au niveau sonore, quand même, c'est... Même pour du son un peu rock, ça passe bien, quoi.
C'est vrai que ce salle est...
Non seulement la salle est géniale, et en plus, l'équipe de Jean Villard arrive à avoir une programmation musicale qui est, c'est quasi vrai. Parfaite. Il n'y a jamais d'erreur.
Il n'y a que 4-5 concerts, mais c'est vrai que...
c'est très très compliqué pour ma modestie, surtout que cette année j'étais dans la programmation, mais les autres années je peux me permettre de dire ça aussi, que j'ai toujours trouvé que c'était des programmations de bon goût, avec un intérêt suscité, réussir à faire venir des gens dans cette zone de Montpellier qui n'est pas le centre-ville, pour toujours pareil, ils ont vraiment réussi. C'est une équipe vraiment...
Belle programmation, Martine notamment qui s'en occupe avec... Luc.
Luc et Jean-François et toute la bande.
Toute la bande.
Pierre-Christophe aussi.
Ouais. Et alors, justement, comment toi, tu as vécu cette soirée? Enfin, tu avais l'air très habité.
Déjà, on a passé quelques jours là-bas en résidence, comme on dit. C'est passer du temps à prendre possession d'un lieu. Et alors, on se sent accueilli comme un petit enfant en colo, quoi, tu vois. Pas en colo, mais j'aime bien toujours avoir ce rapport-là, parce que je trouve que c'est luxueux, toujours être en résidence, quand on fait des concerts qui sont liés au passage et des venues éclairs pour la durée d'un concert, une installation sonore et partir. Donc, là, ça a été un petit combat personnel pour avoir... eu ce petit moment bourgeois de répéter, de faire connaissance, de tutoyer les murs et puis pouvoir livrer un concert avec la sensation du présent sans penser à la semaine écoulée dans laquelle nous avons ou fait des nouveaux morceaux ou pris possession du lieu, quoi. Et j'ai besoin d'une altérité interne. Donc j'étais très heureux de cet accueil, de cette équipe, de ces gens qui sont vraiment... extraordinaire, super, vraiment d'une gentillesse, d'une discrétion, d'une écoute dans le silence. Et puis j'avais besoin que le jour du concert ce soit quand même un peu tendu, quoi. J'ai l'impression que c'est nécessaire, cette alimentation de la tension pour exister dans un endroit présent, que ce soit pas juste une clôture de résidence vénérable, là, un truc... Non, il fallait que je retrouve une altérité et une complicité, etc. Enfin, une nécessité, autant qu'on peut aimer les profiteroles, glace vanille et chocolat chaud, quoi. C'était important de retrouver cette idée-là.
Important de citer les noms des musiciens qui t'accompagnaient, qui sont des fidèles. Hein.
Alors, il y en a un essentiellement, qui est Jean-Christophe Sirvin, qui est tentaculaire, qui est essentiel, complémentaire, qui est...
Complémentaire, c'est vraiment le mot. Bien plus que complémentaire.
Oui, c'est pour ça que je dis essentiel. Parce que
ça coulait de source. Quoi.
Ben, on est dans un rapport aussi sinueux. Je dis souvent ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas des gens frontaux, on va dire. On n'est pas des sournois plus que ça, mais on aime bien quand les choses sont un peu pas faciles et sinueuses. Et finalement, ce rapport que l'on a nous rend le rapport très simple, puisqu'on a ce même... On a cette même torsion, on va dire. Donc voilà, et puis c'est du compagnonnage depuis 10 ans maintenant avec Jean-Christophe, qui a toujours été présent sur les diverses formules discographiques.
Il même a toujours jusqu'au été faune, depuis les faunes.
Non, justement, depuis la fin des faunes.
Depuis la fin des faunes, ok.
Tu me fais dire faune, alors que j'ai envie de dire faune.
Ouais. Non mais dis-le, voilà, hein. Donc, c'est comme quoi je te dis, il faut que je me fasse opérer.
Ah, c'est ça. Non, moi, il ne faut pas que je me fasse influencer. Donc ouais, il a été là dès le premier album de Dimonet, on va dire. Les premiers ornements à cornes, c'était lui. Passé au clavier jusqu'à faire ce qu'il fait maintenant. Jusqu'à faire des chœurs, jusqu'à faire des voix, jusqu'à s'exprimer vocalement.
Et après, les autres musiciens?
Alors ce soir-là, il y avait des invités occasionnels. Exceptionnel aussi pour ce qu'il propose, notamment le Skeleton Band, qui est un groupe montpelliérain qui est dans la veine de Tom Waits, qui est dans ce respect-là, mais qui est sur un chemin de l'émancipation et de leur recherche personnelle, leur style personnel. Il y avait également deux personnes qui sont des génies de la beatbox, comme on dit, deux jeunes garçons qui étaient Robin et Loris, qui ont fait... la beatbox, comme on peut l'entendre sur les morceaux de hip-hop. Donc ça nous arrive quelquefois.
Ces deux moments-là, en tout cas, étaient très différents et ont été magiques. D'ailleurs, on aurait voulu en entendre beaucoup plus, tellement ça, à un moment donné, ça a apporté quelque chose de génial.
Voilà. Ben, nous, ça nous met de l'air aussi, ça nous met dans une sensation d'accueil aussi qui nous... qui nous mouille un peu la nuque sur ces choses-là. Et puis on est prêt aussi à accueillir. On est très disponible à ça. On a eu des craintes par le passé, et puis on retrouve cette belle idée avec ces moments-là de partage. En plus, c'est des jeunes gens. On a l'impression que nous, on est d'une autre génération. On n'a pas l'impression. Nous le sommes. Et donc, c'est super jouissif d'avoir...
L'alchimie prend, en tout cas, sur scène, sur le travail.
Oui, puisqu'on est pareil. C'est sur cette idée-là d'être... Hey, on est sur scène, c'est ici et maintenant. On joue, quoi.
C'était vraiment réussi.
Ouais, merci.
En tout cas, on ne le dira jamais assez. Il existe des albums, il faut se les procurer parce que c'est toujours intéressant. Mais un album, c'est définitif, donc il est fait. C'est pour ça qu'il faut venir voir les musiciens sur scène. Parce que sur scène, le spectacle vivant, d'abord, on ne peut pas, un artiste en général, ne peut pas s'en passer. Je crois que c'est là que se renouvelle, que tout se renouvelle, que tout se fait, que tout se joue. Et puis, y a une possibilité de sortir du titre tel qu'il a été fait au début, puis de rajouter de quelque chose, de continuer la création.
Bien sûr, c'est sempiternel, tout ça. Et c'est le disque est un pense-bête, en tout cas tel qu'il est. Moi, je le conçois. C'est une base.
Ouais.
Et puis, c'est mutant un peu tout ça, le rapport au vivant.
Est-ce que justement, le travail sur scène, par exemple, une fois que le spectacle est terminé, tu arrives, justement, malgré les répétitions et tout ça, après les réactions du public et tout, on arrive encore à se surprendre, à s'étonner?
Je le souhaite en permanence. Je
parle en tant que musicien, vous,
oui,
sur scène.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des choses dans la vie que l'on aime refaire, l'acte reproducteur notamment, celui-ci, comme jouer, comme l'idée du cycle, comme
renaître à chaque fois.
Cette idée-là, on n'est pas toujours dans la recherche du nouveau. L'idée de reproduire est quand même nourrissante.
Ouais.
Donc, je souhaite l'oubli après chaque concert pour pouvoir
continuer de créer.
Cette chose-là, mais. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai très peur d'écouter les enregistrements de concert. J'ai un peu cette crainte-là.
Non, parce que à un moment donné, dans le fil des questions que j'avais à te poser, je me disais, mais à quand le live de Dimonet?
Oui, mais c'est l'idée du live, tout d'un coup, c'est... pourquoi pas?
Un jour,
bien sûr,
aura,
oui, c'est
la fameuse... matière.
Oui, puis c'est l'épreuve 70s, c'est un premier album, deuxième, troisième, for live.
C'est l'idée après peut-être justement de... Alors moi je dis, le premier truc, c'est le concert, c'est quelque chose qui se vit, d'abord c'est le spectacle vivant, mais après cette idée de en discographie d'avoir un album qui propose différemment des titres qu'on connaît déjà, ça c'est aussi une idée qui est intéressante, en sachant que de toute façon un spectacle évolue tout le temps jusqu'à temps que les chansons soient plus reprises dans le spectacle, quoi.
Mais tu as raison de dire ça, parce que je suis d'une génération où l'idée du live, on était dans les triples live, je suis plutôt rentré en musique avec le punk et des choses comme ça, et les disques live, il y en a eu, ça a été des cassettes pirates, l'univers roi pour les cassettes, c'était ça. Et on a été aussi bercés par des monuments, que ce soit Just a Pock, des lives des Doors.
Avec des effets très...
Voilà, c'est des lives mythiques, tout ça. Donc l'idée de se frotter au live, les Floyd, c'est quand même une veine qui était baba, on va dire aussi. Mmh. Alors il y a tout un cheminement pour arriver au live. Bon, les Shérifs l'ont fait aussi, c'est tout un chemin, le chemin de la maturité, du live. Peut-être que je me sens encore un petit enfant pour accepter cette idée de la barbe blanche du live, et puis de renaître derrière un live, évidemment.
Mmh. Allez, on va écouter tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va écouter cet album, le dernier album, et puis après on naviguera un petit peu, on essaiera de naviguer un petit peu dans la discographie.
Madame blanche stérile de l'autonomie de son anatomie recherche le bonheur dans le regard des promeneurs. Un fantôme sous les draps, ce n'est pas toi. Un fantôme sous les draps, j'ai mis les bras
recherche le bonheur dans le regard des promeneurs. Recherche le bonheur dans le regard des promeneurs. S'illumine à la lueur des usines, mais du chromosome les idéalise, les métallise, un moule qu'elle chemise. Paré pour la noce, les yeux rouges sur ma photo. Paré pour la noce, je me trouvais bien idiot. Recherche le bonheur dans le regard des promeneurs. Recherche le bonheur dans le regard des promeneurs. Je t'ai connu plus têtu. Madame l'ange se grise, éclaircissant le tableau, offrant sa fluorescence aux yeux des animaux. Parée pour la noce, toute de rage vêtue. Parée pour la noce, je t'ai connu plus têtu. Recherche le bonheur dans le regard des promeneurs. 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 Madame Blanche se grise, éclaircissant le tableau. Madame Blanche s'illumine aux yeux des animaux. Madame Blanche.
Voilà, alors toi en tant que musicien, c'est ton instrument de prédilection ?
Ben, c'est la guitare.
La guitare, la basse aussi. La basse est venue plus tard ?
La basse, ça a été. C'était comme si c'était. comment dirais-je ? Mon intronisateur dans l'univers du groupe.
Okay.
Ça a été par elle que j'ai commencé à jouer en groupe. Voilà, c'était comme
tu
si.
Tu te rappelles de ton premier groupe ?
Le tout premier, c'était les Sulfateurs Espagnols.
Et c'est pas ce que tu disais tout à l'heure.
Hein. Ouais, c'était à la basse, notamment en pleine
crise. Les Sulfateurs Espagnols.
Les années 86, c'était les années de Vaquet, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, les oui, années Pasqua, ouais. Pandro.
Il y avait un besoin de se révolter.
Voilà, c'était
les années. Sulfater.
Voilà. les années Berrurier Noir et OTH.
Ouais.
C'était plutôt haut en couleur, on va dire.
Ah, et puis c'est Montpellier, il y avait une scène, hein, avec ouais. sous justement le mené de OTH, comme ça, qui oui. menait comme oui, une oui. grosse.
Oh, il y avait énormément de groupes. Groupe. C'était fédéré par un esprit plus que par un style de musique.
Ouais.
Il y avait. Voilà.
Oh, on a fini par dénommer ce truc le rock du Sud, quoi, le rock montpelliérain, en gros. Hein, il y avait énormément de groupes dans le coin.
C'était bien plus simple de l'identifier comme ça, finalement, que. Par un style. C'est vrai qu'il y a eu des scènes, notamment au Havre ou Rouen, où c'était la scène rock'n'roll, précis, racé. Les groupes qui commencent par ST sur Bordeaux, Montpellier, bon, ma foi, il y a par OTH, les Shérifs, les Vierges, qui étaient les gens d'une même génération. La musique, c'était. Enfin, surtout les Vierges. Enfin, sur OTH et les Shérifs, c'était proche, on va dire, mais après le reste, c'était quand même assez différent, quoi.
Ouais.
Pour revenir à la basse, c'est... il y a vraiment deux Dimonés, parce que moi j'ai connu le Dimoné avec The Chase, qui a vraiment qui vit les choses de manière très différente dans le corps à la basse, et puis après, j'étais vu.
J'avais commencé par voir
The Chase. En fait, je connaissais le nom Andy Money, et puis les Chase, je les ai vus plein de fois. Et
c'est un grand fan de Chase.
Yes.
Il y a Cyril qui est venu là aussi.
Et vraiment, il y a vraiment deux Dimonet sur scène. Le Dimonet à la basse avec les Chase, où vraiment, moi j'adore, c'est génial. Et puis le Dimonet en solo, quoi.
C'est
deux,
ça...
deux manières de se tenir, je trouve, très différentes. Deux personnages différents.
La scène propose cette idée du personnage. Hein. C'est vrai que je vais sur scène pas en cherchant à être moi-même en dehors. Ça me permet d'être tempéré en dehors, le fait d'avoir des moments où c'est où plus caliente, mais c'est l'instrument qui me donne une place, ou celui j'en cherche une à travers l'instrument. C'est sûr que le côté un peu paternant de la basse donne une certaine fonction dans le groupe, dans le groove, ouais. Dans la fonction du groupe.
En tout cas, ce qui est
côté
qui est
pour colonne vertébrale, un peu d'un côté,
quelque chose comme ça. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Souvent, les bassistes dans un groupe sont très très effacés. Hein, que... Alors que là, il y a une telle équilibre dans The Chase, tous les instruments.
Paul McCartney. Les...
Oui, c'est vrai, mais je parle de manière générale. Hein. Ils sont plus effacés que les guitaristes.
L'idée est moins scintillante. C'est sur la durée, le bassiste, que tu le sens. Il y avait quelque chose qui était là. Ouais. Bon, après, t'as, comme dit Thierry, tu as des Bootsy Collins, de James Brown, qui était très, très captivant, on va dire, par sa présence. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a de ces écoles dans le rock où les bassistes sont fondamentaux, mais pas exubérants. Il y a de ça aussi. C'est une part qui a été laissée aux filles aussi à la basse, beaucoup dans les groupes New Wave. Tout d'un coup, l'instrument vers lequel allaient les filles dans le rock était la basse. Aussi, ce genre d'instrument-là. Je dis ça parce que ça me nourrit de part féminine quand je prends la basse. Que je...
D'ailleurs, j'avais ramené les Suprêmes d'Inde au cas où on aurait le temps. Mais... Donc, la guitare, bon, ton premier instrument, tu... Je vois des fois, tu te rajoutes des cordes, t'aimes bien le charango, les trucs comme ça.
Oui,
Et je trouve que dans tes albums, quand ça revient, ces sons-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'ailleurs de sons qu'on entend. Même le piano, tu vois, on pourrait penser que c'est tiré de ce genre de sons, quoi. De ces instruments à quatre cordes et tout ça qu'on peut entendre dans certaines musiques.
Oui, c'est toujours des instruments qui m'ont été offerts pour des occasions diverses. Et c'est toujours lié à l'enfance, ce format-là. Après, que ce soit en petit arrangement subliminal ou le petit gimmick, la petite chose d'appartement. Après, sur scène, c'est encore autre chose. Il y en a qui le font très bien. J'adore le général Alcazar qui fait de l'instrument hybride par excellence.
Moi, j'adore ce genre de son. Et on le retrouve dans tes différents titres. On retrouve, alors, pas forcément fait avec ces instruments-là, mais l'esprit d'un peu ces instruments qu'on retrouve, même des fois accompagnés de samples ou de trucs comme ça. Mais il y a quelque chose qui. Et c'est ce qui, moi, m'approche de ce que je parlais un peu de rêverie, comme ça. C'est souvent ce qui apporte ce côté-là sur le plan musical dans tes chansons. Quoi,
c'est le disque, ouais, permet ça, de faire des petites couches qui se greffent ailleurs que dans le côté direct, la scène.
C'est autre chose.
Oui, voilà.
Moi, je suis le premier à dire, quand on est en studio, il faut profiter de tout ce que peut nous offrir de faire le studio, puisque ça sera définitif, autant en mettre de faire... Voilà, c'est un moment particulier où il faut prendre ce que nous offrent les possibilités.
Il faut réfléchir à ça. C'est, pendant longtemps, je me disais aussi, il vaut mieux prendre un pull et ne pas s'en servir que l'oublier et avoir froid. Tu vois, donc... Pourquoi pas l'oublier, avoir froid, je me dis maintenant.
Ouais.
Mais l'idée, ça serait de l'oublier et de ne pas s'être embarrassé tellement on aura eu chaud, quoi.
Ouais.
Voilà.
Donc, on va parcourir un peu le revenir un petit peu dans ta discographie. On va revenir à... Alors moi, un titre, je crois que quand j'ai écouté ce titre dans ton premier album... j'ai dû le remettre 5 fois. Ça m'arrive souvent d'ailleurs dans chacun. Il y a toujours une chanson que je remets 5-6 fois de suite. Et là, ça s'appelait L'infini en butée.
Ouais, super. C'est mon titre préféré du disque. Pour faire le lèche-cul. Voilà.
Thank you.
Je ne sais plus non vers qui me tourner, non plus sur quel pied danser. Aussi je cherche une force qui me donne du courage, chose que je puise dans le plus proche entourage. Je dis un, c'est pour mon fils. Deux, ça, c'est pour nous deux. Trois, à vous mes frères. Et quatre, à toi ma mère. Dis-moi père, aide-moi dans la tempête. Dis-moi mère, est-ce que c'est toi, cette étoile sur ma tête? Peut-être peut-on aussi n'importe quoi me faire avaler, des boniments, des serpents ou du café salé, sous forme de petites cuillères, une qui tempère l'autre plus amère, pour me faire manger de ce plat que je n'aime pas. 5, ça c'est pour mon père. 6, c'est pour le vice. 7, peut-être adieu. 8, pour de beaux yeux que je connais déjà. Dis-moi père, aide-moi dans la tempête. Dis-moi mère, est-ce que c'est toi, cette étoile sur ma tête? Dis-moi mère, est-ce que c'est toi, cette étoile sur ma tête? Dis-moi père, aide-moi, aide-moi dans la tempête. D'avancer, j'obtiens le pas sûr. On s'habitue à ces peurs qui nous rassurent. Les proches et ceux qui s'approchent auront si bien compté qu'un jour je serai devant l'infini embuté. Oh, dis-moi, mère, est-ce que c'est toi, cette étoile sur ma tête? Dis-moi, père, aide-moi, aide-moi dans la tempête. Se trouver devant l'infini embuté, se trouver devant l'infini embuté, se trouver devant l'infini embuté, se trouver devant l'infini embuté.
Voilà, donc là on est revenu, je vous laisse parler là les deux là. Et donc je vous le dis, je redisais, on est remonté à 98 là quand même. Hein.
Et ouais.
Donc c'était juste après les Faunes.
Ouais, c'était le moment charnière.
Les Faunes, c'était 96.
C'est pas vrai, il y a pas eu d'album des Faunes. Ouais, c'était un maxi.
Un maxi, ouais.
Je ne sais plus l'année.
96, je crois.
Peut-être même.
Oui, il y a peut-être eu un.
95, 96. Oui, il y a eu un moment donné sur la compilation de la ville de Montpellier qui était en 95.
Ah oui, c'est vrai. Oh là là, oui.
Deux titres à cette époque. Quoi.
Ouais, je m'en rappelle bien. Je m'en rappelle, je devais être au jury ou un truc comme ça. Et alors, donc, là, sur scène, vous avez fait un concert. Il y a cet album qui est sorti donc, en 2009. Et là, on l'évoquait à l'instant hors micro. Sur scène, il y a déjà des nouveaux morceaux. Ça préfigure déjà le travail du nouvel album, je suppose.
Oui, oui, oui. C'est, depuis un petit moment, déjà, on joue quelques chansons qui sont sur aucun des disques, qui sont des nouvelles à venir, des nouvelles pour un support discographique, même si on les joue depuis quelques temps. Et on a bénéficié de quelques jours donc, de travail à Jean Villard pour proposer et créer de nouvelles chansons.
C'est bien. C'est bien avancé, là le...
Oui, oui, oui. C'est,
il y a
c'est
combien de titres actuellement?
Pour l'instant, il y en a 6.
Ouais. On est à la moitié de l'album, quasiment.
Ouais, il va falloir aller faire le pastourio et aller chercher tout le reste.
Ouais, bon, mais enfin, donc, de toute façon, je pense que tu laisses... parce que c'est ton troisième album depuis, donc, on a dit, 98. Ouais. Donc, finalement, tu ne te presses pas trop. Quoi.
Voilà.
Et puis, tu ne fais pas que ça.
Oui, il y a des aventures en chemin voilà. qui font donc, des heureuses...
Parce que tout à l'heure, on a parlé de The Chase. Donc, voilà, comment c'est... Alors, d'abord, je voulais revenir à une question. Au départ, toi, en matière de chansons, de musique, tes penchants naturels, on a parlé de punk tout à l'heure, tu...
Ça, le punk,
est-ce
c'était
que,
pour...
En matière de chansons, tu as une...
En matière de chansons, ça a été...
prédilection au départ.
C'était... Il y a plein d'images qui arrivent. C'était les rendez-vous chansons, étaient les rendez-vous familiaux devant Guy Lux. Et puis, c'était des moments en couleur qui n'étaient pas ancrés profondément en moi. C'était, voilà, cette chose un peu kitsch, la France d'avant. C'était les choses-là. Il y avait les parents qui écoutaient du Brassens, du Sardou. Ça ne me plaisait pas trop, moi, Brassens. J'aimais pas trop. J'avais toujours l'impression que qu'il parlait des chemins plus que des routes, qu'il parlait de la campagne plus que des villes. Il y avait des histoires qui étaient dans des bourgades où il n'y avait pas beaucoup de gens. Ah, ça m'ennuyait, pour te dire franchement la chose. Donc la chanson française m'a quand même accompagné d'une manière à pattes d'éléphant, quoi, d'une manière un peu légère. Il y a eu des moments heureux, comme Claude François. Ça a été quand même très kitsch et très superficiel et très léger, la chanson française. J'ai pas du tout adhéré à cette idée de Brel, de Ferré, qui était la chanson à papa-maman, voire papi-mamie et tout ça. Donc il me tardait de rencontrer autre chose qui était de l'ordre du festif et que le corps s'en empare. Ça a été les années disco, ça a été le ska par Madness, ça a été le reggae par Bob Marley, ça a été tout ce qui pouvait... faire danser en boîte et lors de soirées avec ou d'après-midi plutôt festive avec des compagnies féminines et de cette idée un peu ludique, superficielle et que tout d'un coup ça devienne un peu excessif, ça c'est venu avec le rock et cette idée du vice et de quelque chose d'un peu pervers, de pesant, de sulfureux, de dangereux. Il fallait aussi que ça passe aussi par là et s'inventer ce chemin qui n'était pas celui des générations précédentes. Ouais. Donc c'est, ça passait par le non dit de l'anglais, de toute manière le non compris, on va dire, pour que ce soit un peu de l'art abstrait, et que ce soit du cubisme, que ce soit du Van Gogh ou j'en sais rien, quelque chose d'incompris en tout cas, et qui soit de l'ordre du sensationnel.
Ouais.
Et pour que la perte d'un adolescent que j'étais devienne quelque chose de coloré et de désiré pour en arriver à ce chemin du punk qui lui permettait de prendre les pinceaux du coup, prendre les armes, d'exprimer quelque chose, d'être acteur plutôt que... C'était important ces années montpelliéraines c'était un véritable creuset où la musique comptait pas. Ce qui comptait, c'était l'énergie.
Ouais.
Et c'est primordial. Quelqu'un qui te parle de quelque chose avec forme te vendra le fond. Quelque chose comme ça, on va dire.
Ouais, puis il y a peut-être recul. Une idée d'être directement captif, quoi, sans aller chercher plus loin. Il y avait ça dans cette énergie.
Oui, complètement. C'était l'idée du présent, ici, maintenant. Voilà. On peut. Voilà, c'est jouable. On commence par une note sur la basse, on en fait quatre à la guitare. J'aime bien cette idée de passer un CAP.
C'est un rapport immédiat, là, comme ça, avec cet enthousiasme immédiat provoqué par
l'idée de la bande aussi, l'énergie, le collectif, quoi, passer par une énergie multipliée par les aventures collectives.
Alors, c'est marrant parce que alors, donc, du coup, tu parles de ça, mais pourtant, quand on écoute ton répertoire aujourd'hui, il n'a rien à voir avec les bases que tu donnes, en tout cas, ni ton écriture. Là, on vient d'entendre un titre, bon, c'est vrai qu'avec un cutter à cordes qui est très joli, mais tu es capable de faire ça. Tu as des morceaux très rock, hein, des morceaux, mais dont on ne sent pas forcément l'affiliation avec
ces groupes dont je parle.
Avec ces groupes, et puis peut-être plus avec ces groupes dont tu parles, mais moins, pas du tout avec ce que tu as dit avant sur la variété kitsch française, etc. Je suppose que, bon, tu en as gardé quelque chose, mais...
Oui, mais c'est... Alors, parce que c'est... Pour moi, c'est l'idée de l'enfance. C'était vraiment des couleurs plus qu'une musique qui m'habitait, qui m'est rentrée dedans. Je suis quelqu'un d'assez mélancolique, nostalgique, assez ironique, et je suis dans le souvenir, la mémoire m'intéresse, la transmission aussi, et la digestion aussi. Donc l'idée de faire toucher les fils avec OTH et Claude François, c'était quelque chose qui, ça se touchait en moi, ces fils-là. Ouais. Tu vois, il fallait trouver, exister. Sur scène, il y a Claude François qui est pour moi avec le père Vert, et puis une sensation fiévreuse qui est le perf. Mais pas la couleur. m'intéresse d'être dans ce trouble-là aussi, puisque j'ai l'impression que je ne vais pas m'inventer ce que je ne suis pas. Faire ça, justement.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça me donne une drôle de sensation, parce que moi, François, toi, de la génération que je suis, pour moi, j'exècre.
C'est difficile pour moi de dire ça,
Non, mais c'est bien, c'est rigolo, parce que moi, si je remonte, par exemple, au plus loin de mon enfance, et moi qui suis un fan de chansons françaises, et ben, le premier disque à 11 ans, je crois, ou 11 ou 12 ans que j'étais acheté, c'était Julien Clerc, La Cavalerie, ou un truc comme ça... Tu vois, c'est quelqu'un qui fait partie du showbiz, qui est gentil, qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais c'est mon premier souvenir, quoi, ça. Même avant, j'en ai d'autres, encore plus kitsch.
Tu vois, on se fait des moments contre lesquels on veut lutter aussi. Ça, il aurait pu te rendre punk, Claude François. Moi, quand je te parlais tout à l'heure des Beatles, au moment où je commençais à jouer dans les Sulfateurs espagnols, j'ai entendu écouter les Beatles. Ouais. Mais si j'avais continué à rentrer en Beatles mania, j'aurais pas fait tout je vais devenir fan, je crois qu'il y a que ça. Ouais. Donc si tu sais que tu as un chemin à faire que j'ai décidé de rester con, on va dire, tu vois.
C'est bien intéressant.
Après, il y a quelques années, 2 ans, il y a Jean de la Guillonie qui nous a proposé de faire une soirée autour de Léo Ferré. Pareil. J'avais fait un texte en préambule où je disais ce que c'était pour moi. C'était un ogre, c'était la sorcière, c'était la Befana, tu vois. Ce chauve grisonnant, en chemise noire, a chanté cet extra où avec le temps va, tout s'en va. On ne dit pas ça, un petit enfant. On ne dit pas ça, le monsieur, on veut qu'il parte là. Donc il est parti de chez moi, je ne suis pas allé chez lui. Et ça m'a permis de refaire un chemin par derrière Léo Ferré. Et c'est monstrueux, quoi.
C'est monstrueux.
Donc, on rate plein de rendez-vous. Moi, j'en rate avec les gens, j'en rate avec les artistes où c'est pas le moment. Ou c'est pour diverses raisons. L'idée d'être à la mode.
Non, puis il y a toujours un temps pour.
Mais puis c'est c'est quelque chose de chimique. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir raté Ferré. Le fait de l'avoir découvert tard me fait courir vers la sensibilité qui peut prendre. Curé aussi, peut-être, il y a un peu tu vois.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, moi, avec les Beatles, ça me gonflait d'entendre toujours les Beatles, qu'il fallait quasiment incontournable. J'ai aimé plein de trucs, et puis, un jour, j'ai découvert que tout ce que j'avais aimé, les Beatles, je l'avais fait finalement avant, quoi. Et je me suis dit, merde, c'est ça, les Beatles.
C'est compliqué.
Ça devient, hein, ça bouleverse un petit peu
Les maris trompés, un peu.
On s'était dit, on a grandi avec, en étant sûr de nos références, et puis finalement, on s'aperçoit que...
On avait raison.
Oui, on avait raison quand même, forcément.
Ça fait avoir ses...
Surtout quand on est ado, on est un peu sectaire. Hein, ce qu'on découvre, il n'y a rien d'autre, quoi. Non, mais c'est bien. Il y a toujours un temps pour retrouver les choses et refaire les liens, quoi. Et intéressante ton idée de créer comme ça des liens et puis de transmettre aussi. Et de
sentir où tu es là-dedans.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il y a... c'est les images de la famille, du dimanche. C'est beaucoup l'idée de... C'est un décor émotionnel, la musique.
Et la guitare, c'est ton premier instrument, on va dire.
Oui, ouais. C'était, oui.
Voilà. Et aussi parce que c'est plus facile à transporter qu'un piano, je suppose.
Non, le piano, j'ai tout fait en autodidacte. Après, voilà. C'est l'idée de...
Mais est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu es...
En toute honnêteté, oui. Ouais. En toute honnêteté, oui. Mais si j'en ai pris une dizaine avec mon frère. Voilà,
ton frère était déjà musicien, oui.
Non,
t'as
en même temps,
un petit frère,
non, j'ai que des petits frères plus grands que moi. Mais, voilà. On en a pris quelques... Lui, il est plus appliqué, on va dire. Je peux dire, sans aucune fausse modestie, qu'il est plus précis que moi.
Et donc toi, tu te prends surtout pour un autodidacte, donc hein,
Oh, j'aurais du mal à me prendre pour autre chose, voilà. Parce que c'est... malgré les cours, évidemment.
Créatif quand même, quoi.
Ouais, bon, après, il faut que ce soit difficile, moi, pour que... Ouais. Alors, c'est un autodidacte... Comme je suis un peu têtu, il faut que la chose soit pas facile. Je me dis que le travail est toujours dans les endroits où c'est pas facile.
Allez, on va remonter encore plus loin que tout à l'heure avec l'album de
Un bruit blanc.
Album. Oui. On va aller avec Un voilier sur l'étagère. Ça te dit quelque chose? Et alors, c'est marrant parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Hein, tu disais, c'est un morceau progressif. Et puis effectivement, moi, quand j'ai écouté ce titre, il y a déjà un moment maintenant, puis en réécoutant pour préparer l'émission, c'est tout à fait ça, quoi. Ça me fait penser au mouvement progressif qui a beaucoup traîné en France dans les années 70, dont certains groupes ne t'ont pas échappé, qu'ils soient anglais ou français, certainement.
Oui, ce morceau, enfin, quand je repense à lui, ça me fait drôle quand tu m'as dit ça. Je me revois le jouer la tête baissée. Je faisais connaissance avec les petites pièces de ma guitare. J'ai l'impression que je vais à cet endroit dans le manche. Tac, et puis les notes bourdon, la note qui est là en permanence. Je jouais la tête baissée, j'étais en dedans. J'imagine, ça fait drôle que tu aies choisi ça.
Allez, on écoute.
Dans une écorce de pin
C'est déjà à nous ? Ben voilà, écoute, Dimonet, je vais te laisser prendre la guitare. Ah, c'est vrai que fumer en même temps que...
Tu fumes, Cyril ?
Donc, allez, on a prévu le petit live.
Donc, ceci est une nouvelle chanson.
Ah, ben voilà, on a une exclusivité, hein.
Détresser les cordes, les dresser à mordre, des filaments qui s'émèchent, se dépêchent, ondulant sous le tic-tac. Du temps ondulant sous le tic-tac du temps. Faufiler sous la lune, l'ourler à nos idées brunes. Appréhender les ombres, décalquant leur nombre, ondulant sous le tic-tac du temps, ondulant sous le tic-tac du temps.
Voilà, merci. Ça fait plaisir. Donc on le voit, on sent déjà là ce qui va se passer. C'est bien. Il y a des prémices. Donc de ce qui va sortir dans 18 ans.
Non, c'est oui, oui, probable.
Bah, on va essayer combien
dans
temps
l'année.
On va essayer
ouais,
non, ah, quand même.
Dans
donc là,
2011,
tu vas,
quoi.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est même, ça va venir quand même assez rapidement, assez rapproché.
On, par on va essayer.
Parce qu'il y a le travail de The Chase aussi. Il est déjà bien entamé, non, je suppose.
The Chase, l'album est fait. L'album est enregistré, fait, masterisé. Voilà. C'est qu'une histoire de produit maintenant, okay, d'organisation.
Donc, ça combien de temps le travail autour de The Chase, ça a pris enregistrement.
Comment quantifier ça au niveau enregistrement, on va dire, je vais te dire des choses bateau, mais techniquement, la période à partir du moment où la première note a été faite jusqu'à la dernière, une période de 2 mois, plus un petit break, okay, plus le mastering, enfin le mix et mastering. Okay. Après, c'est des choses qui sont sur
alors,
un calendrier.
Parce qu'il y a The Chase, mais il y a aussi le théâtre. Donc Hiroshima, mon amour. Travail de Marguerite Duras sur scène. Alors, comment s'est passé ce contact? Comment tu as été contacté pour ça? J'ai vu la lettre que tu avais fait. J'ai plus où j'ai vu ça.
Sur le blog d'Hiroshima, mon amour.
Ouais, ouais.
Alors, c'est la compagnie Un des Sceaux et Simples avec Julien Bouffier, metteur en scène, avec qui j'ai déjà travaillé sur 3 spectacles maintenant.
Ouais.
C'était en 2002, il y a eu le début de l'art. Il y a eu en 2006 Berlin au Comment et celui-ci, Hiroshima, mon amour. Donc c'est quelqu'un avec qui il m'arrive régulièrement de travailler, Julien, avec qui on a des... Et Julien avait mis en scène aussi un concert que l'on avait fait en 2004 au Théâtre de Sète. Ça a été, voilà, une continuité, on va ouais. dire, dans le travail.
Quand ça se passe bien, on a envie
d'explorer
l'univers de l'un et de l'autre. Quoi.
Complètement, de les mêler. De... En tout cas, c'est son désir à chaque fois de m'appeler.
Alors moi, je n'ai pas vu le spectacle « Hiroshima, mon amour », mais dedans, tu joues un personnage et en plus, tu joues quand même dedans.
Oui, Julien, à chaque fois, fait ça avec les musiciens. Il les intègre dans l'idée du jeu. Pour les avoir sur le plateau et pour incarner un personnage, une existence et que ça ait du sens. Un autre, en tout cas, que celui de faire ce pourquoi on aimerait que ce ne soit que la musique, par exemple, ou le rapport aux mots. Il me fait toujours dire des choses. Je me défends d'être comédien.
Mais en même temps, c'est... Il y a une sorte de continuité quand même.
C'est nourrissant pour les univers, que ce soit la chanson, la musique.
C'est venu facilement, c'est pour toi?
Non, c'est pas facile. Ouais. C'est toujours un petit peu obstétrique, prudent, pudique. Même s'il y a une part de désir à aller être sur le plateau et à apporter quelque chose aux aventures. C'est quand même avec prudence. C'est pour ça que je me défends d'être. Je suis toujours planqué derrière un instrument, même avec le désir d'émancipation.
C'est à la limite un peu plus facile pour toi, comme ça t'es pas complètement démuni de ton univers, mais en même temps tu rentres, disons, insinueusement dans un autre.
C'est une place particulière qui me plaît, qui m'intéresse, celle-ci de faire de la musique, du chant, des mots, de poser la guitare quelquefois. Voilà, je pense que secrètement, au fond de moi, ça m'intéresserait jouer, tu vois, on va dire. Mais je sais que c'est un boulot prenant, c'en est un autre, quoi. Ce n'est pas le mien.
C'est un peu le contraire avec vous, quoi. Vous avez amené la musique, alors qu'à la base, vous étiez surtout sur le théâtre.
Ouais. Mais avec une grosse envie musicale, quand même, à la base.
Une envie de chanter, tu disais tout à l'heure.
Et toi, est-ce que tu l'avais eu, cette envie de comédie, de comédien?
Oui, ça me plaît. Je ne l'avais pas, non. Mais ça me plaît. Plus ça va, puisque les incartades sur scène, ça a un autre rapport que celui d'un concert. Hein. Ça, du tout, il y a un autre fil souterrain, on va dire, qui permet d'être dans un autre recueillement, quoi, ou une autre justesse, qui est vraiment un autre aspect du rapport à la scène.
Donc, on va continuer, parce que The Chase, c'est une chose. Hiroshima, ça se joue encore
On va le rejouer cet été au Festival d'Avignon, à la Manufacture.
D'ailleurs, on retrouve dans ce spectacle Vanessa Liotek, on trouve aussi dans l'album, dans un de tes albums.
Oui, Vanessa est comédienne, excellente comédienne de toutes les pièces que fait Julien depuis un petit moment, on va dire. Elle a fait une voix sur ce titre dans le début de là, et c'est avec bonheur que j'ai voulu que cette chanson soit sur le disque avec elle, le précédent.
Alors, bon, c'est pas ce morceau-là que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi deux temps, trois mouvements, parce que je te le disais tout à l'heure, hein, ça fait aussi partie.
C'est le côté trois temps.
Voilà, il y a quelque chose et voilà, qui m'envoûte un peu, comme ça, quand j'écoute ce morceau. Et c'est aussi dans l'album ce morceau qui m'a. Alors, il y en a d'autres, hein, mais voilà, j'ai un peu. On va comprendre peut-être pourquoi. Hein. Allez, on y va, deux temps, trois mouvements.
Faudrait que tu vois comme j'assure ces premiers pas battant la mesure, ce que l'on n'a pas pu se dire assez tôt, soupir en mouvement dans le tempo. Mon ombre est la seule cavalière, dès les premiers pas déjà par terre. Mon ombre est la seule adversaire dans la chambre où l'on fut partenaire. De temps, trois mouvements suffisent pour que se rallument les amants que nous fûmes. De temps, trois mouvements, je me brûle et je me brise au souffle d'une bise réactive à la chemise. Faudrait que tu sois dans d'autres bras pour que tu vois tout ce que je ressens pour toi, ce que l'on ne peut plus se dire. Allons, laissons nos corps en gémir. Mon ombre est la seule cavalière, dès les premiers pas déjà par terre. Mon ombre est la seule adversaire sur la piste où l'on fut partenaire. De temps, trois mouvements suffisent pour que se rallument les amants que nous fûmes. De temps, trois mouvements, je me brûle et je me grise au souffle d'une bise. De temps, trois mouvements suffisent pour que se rallument les amants que nous fûmes. De temps, trois mouvements, je me brûle et je me grise au souffle d'une bise réactive à la chaux vive, à la chaux vive.
Donc là, on va changer un petit peu d'univers, parce que on t'a demandé de choisir un titre au choix.
Oui.
Et donc, le temps que Karine le cale, parce qu'on avait prévu de passer The Chase, puis là, je pense qu'on va être un petit peu pressé par le temps. Donc, on a déjà présenté ce qu'on avait de The Chase avec Cyril qui est venu.
D'accord, Cyril
donc,
est venu.
Donc, le
patron.
Tu en as parlé un peu. Donc, on va passer à ce disque au choix. Alors, qu'est-ce que tu as choisi?
Oh, j'ai choisi ce titre de ce garçon que l'on entend pas mal. Et justement, c'est un rapport avec The Chase. On avait joué avec lui au Printemps des Bouzes à Octon il y a une paire d'années ou trois. Il s'appelle Booger. C'est un morceau où les paroles me font rire. C'est « I lost my lungs in the smoking area ». Je pense à toutes nos cabines d'intérieur où on a quand on s'enfume dans, ouais. dans des lieux clos, et je l'imagine beaucoup dans les aéroports où il y a des salles fumeurs qui donnent vraiment envie d'arrêter de suite. Donc pour traduire, ça veut dire j'ai perdu mes poumons dans l'espace fumeur.
On écoute. Donc tu me rappelles le nom de...